Bonjour à tous et à toutes, et surtout, bienvenue à vous pour ce premier épisode long format. Chaque semaine, nous aborderons des thématiques bien spécifiques et qui couvrent l'ensemble de l'actualité. Des invités seront également là pour nous parler de leur expérience ou encore pour nous apporter leur expertise sur des domaines qu'ils maîtrisent. Des thèmes qui finalement vous concernent, mais qui surtout nous concernent. Des thèmes propres à notre belle capitale qui est Bruxelles et avec parfois des enjeux à échelle européenne. Passons tout de suite au premier épisode d'une longue série. Chaque jour, nous l'utilisons. Il fait partie de nos vies. Et depuis près d'un an, il a même pris une place centrale dans cette dernière. Grâce à lui, certains ont pu continuer à exercer leurs fonctions avec le télétravail, étudier grâce aux cours en ligne, ou encore garder un semblant de lien social en prenant désormais l'apéro en FaceTime. Pour d'autres en revanche, cette transition dans un monde plus virtuel que réel a creusé encore plus des inégalités qui étaient déjà bien présentes. En effet, je ne vous apprends rien, mais le développement des outils numériques se construit à la vitesse du TGV et gare à ceux qui ont volontairement ou non, malgré eux, raté le train. Pour contrer cela, différents acteurs interviennent déjà depuis quelque temps. Je peux par exemple citer le CPS de Bruxelles, qui offre un accès à 3 salles d'études destinées aux étudiants qui sont en situation de précarité numérique. Certaines écoles ont également reçu des PC portables qu'elles ont ensuite distribués à leurs élèves. Et si de tels moyens sont aujourd'hui déployés, c'est que le problème est bel et bien réel. Vous l'avez compris, notre rapport au numérique évolue de plus en plus. Et quand on parle de fracture numérique, on peut aussi parler de facture, tout en sachant que l'un exerce un impact certain sur l'autre, mais pas seulement. En effet, ces inégalités d'accès au digital n'est pas uniquement due au manque de moyens financiers. Cette fracture, comme on l'appelle, dépend de nombreux facteurs et est bien plus profonde que l'on ne le croit. En pratique, la fracture numérique traduit les inégalités d'accès à l'Internet. Cela peut donc correspondre à l'impossibilité d'avoir une connexion Wi-Fi, à l'incapacité d'avoir du matériel informatique, comme un PC portable, un smartphone par exemple, ou encore ne pas avoir de compétences pour pouvoir utiliser tout ce matériel. À l'échelle de la région bruxelloise, on peut compter 170 000 personnes qui ne possèdent aujourd'hui aucune compétence numérique et 475 000 Bruxellois des compétences que l'on peut qualifier de faibles. Des chiffres assez gros, qui inquiètent et qui prouvent surtout l'importance de créer et de partager des solutions pour remettre sur un certain pied d'égalité l'accès au numérique. À noter qu'il existe 3 degrés de fracture numérique. De plus, des moyens ne cessent d'être déployés pour lutter contre cette fracture. Tania Mamari, la coordinatrice pour l'inclusion numérique en région de Bruxelles-Capitale et membre du CIRB, pour rappel le Centre d'informatique pour la région bruxelloise, est notre première invitée. Elle apporte quelques précisions à ce sujet.
Il y a 3 degrés, en gros, à la fracture numérique. Il y a la fracture du premier degré qui concerne vraiment l'accès à un Internet haut débit. Donc là, on parle d'inégalité d'accès aux technologies. Pour cette fracture, on considère qu'il y a plus ou moins 90% des ménages en Belgique qui possèdent une connexion Internet à domicile. Mais donc, il y a 10% encore de la population qui n'ont pas une connexion Internet à domicile. Donc là, on parle vraiment de l'accès aux technologies et à Internet. La fracture numérique du deuxième degré, elle concerne les compétences numériques. Par exemple, l'utilisation de la souris, du clavier, des traitements de texte, des moteurs de recherche, etc. À ce niveau-là, on considère qu'il y a 32% des individus en Belgique qui ne possèdent que de faibles compétences informatiques et 8% des individus qui sont des non-utilisateurs d'Internet. Donc, au final, les deux ensemble, ça fait près de 40% de la population belge qui sont considérés maintenant en situation de vulnérabilité numérique. Et alors, on a la fracture du troisième degré qui, elle, concerne l'utilisation des services essentiels. Par exemple, l'utilisation de l'e-banking, faire des achats en ligne, introduire sa déclaration fiscale via TaxonWeb, etc. Donc là, on se rend compte qu'il y a vraiment de grosses inégalités numériques et tout particulièrement dans les groupes qui sont socio-économiques, économiquement et culturellement moins favorisés. Dans ces groupes-là, 51% n'ont jamais fait par exemple d'achat en ligne, 37% n'ont jamais utilisé l'e-banking, et 56% ont fait le choix spécifique de ne pas renvoyer de formulaire en ligne à l'administration alors qu'ils devaient effectuer cette démarche administrative. Là, on parle par exemple de TaxonWeb qui a vraiment été numérisé ces dernières années. Donc voilà, les inégalités numériques et sociales, elles sont liées, ça c'est sûr. La numérisation, elle tend à augmenter aussi les écarts entre les différents groupes sociaux. Et la crise sanitaire récente a accéléré la transformation numérique, mais alors du coup, elle a eu un impact également fort sur l'état de la fracture numérique. Si on prend par exemple la fracture numérique du premier degré qui concerne l'accès, on considérait encore en 2019 qu'une famille qui avait un ordinateur à la maison et qui était connectée à Internet n'était pas en fracture numérique. Or, maintenant, avec le confinement, on se rend compte que les parents doivent télétravailler, les enfants doivent suivre des cours à distance, et donc il faut plus d'un seul ordinateur à la maison. Et donc, même ces familles qui avaient un ordinateur sont potentiellement maintenant considérées comme étant en fracture numérique.
D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que les technophobes, entre guillemets, d'aujourd'hui pourraient être finalement les nouveaux SDF de demain, parce que le numérique, c'est vrai que ça a pris une place centrale dans nos vies, et même s'il y a un manque d'accessibilité, il y a aussi parfois des gens qui n'ont pas la volonté de vouloir commencer à travailler, à envoyer tout ce qui est papier administratif en version numérique, quoi.
Tout à fait. C'est vrai que le plan va essayer aussi de travailler sur cette problématique, sur le fait qu'il y a en effet encore des gens à l'heure actuelle qui ne souhaitent pas utiliser cet outil informatique, de sensibiliser ces personnes, aussi de déstigmatiser l'outil informatique. Donc il y a encore beaucoup de gens qui ont peur en fait de l'ordinateur, qui ont peur de mal faire, qui ont peur de casser la machine, ou qui ont peur des effets négatifs en fait de la transformation digitale. Je pense entre autres au cyberharcèlement, au hacking, au phishing, etc. Donc voilà, l'objectif est vraiment de sensibiliser la population au côté positif en fait que l'informatique peut leur apporter, et que l'outil informatique peut leur apporter, que ça soit dans la vie professionnelle ou dans la vie privée. Moi, je pense simplement à regarder les horaires de bus ou de tram avant de se déplacer. Voilà, il y a pas mal de choses en fait que l'outil informatique peut apporter. Faire un virement bancaire depuis son téléphone, plutôt que de devoir payer dans une banque pour qu'on fasse le virement à notre place. Il y a beaucoup d'avantages en fait. L'outil informatique apporte beaucoup d'avantages, peut-être plus d'avantages que d'inconvénients, mais il faut que ça soit des avantages pour l'ensemble de la population. Comme vous le mentionnez, si la société se numérise de plus en plus et que les services publics se numérisent de plus en plus, si je ne peux pas me servir de l'outil informatique, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir demander, par exemple, une aide. Les aides Covid, vous pouvez les demander essentiellement via l'outil informatique. Mm-hmm. M'inscrire comme chercheur d'emploi auprès d'Actiris. Donc voilà, il faut que tous ces services publics puissent encore être accessibles à l'ensemble de la population. Et pas juste aux personnes qui ont accès à ces outils numériques. Donc voilà, c'est vrai que une des conséquences principales de la digitalisation, c'est l'exclusion des personnes qui sont éloignées du numérique et l'exclusion de la société de manière générale.
Eh bien, merci à vous, Madame Mamary, pour toutes ces précisions. Et parmi les solutions proposées pour lutter contre ces inégalités, récemment, le ministre du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que de la transition numérique, Bernard Clerfailly, annonçait un plan d'appropriation numérique. Mais en quoi consiste-t-il concrètement? Quels sont les axes privilégiés pour ce plan et qui en sont les acteurs? Toutes des questions auxquelles j'ai tenté de trouver réponse lors d'un échange avec le ministre Bernard Clerfailly.
On a développé un plan d'appropriation du numérique qui vise à mobiliser une série d'acteurs, des moyens budgétaires et toute une série d'actions en région bruxelloise. Il y a 4 axes, il y a 17 chantiers, 66 actions précises qui vont mobiliser toute une série de partenaires, les communes directement, les administrations régionales lorsqu'elles informatisent les formulaires, etc. mais aussi Actiris, par exemple, qui accompagne les chercheurs d'emploi. Beaucoup trop de chercheurs d'emploi, par exemple, aujourd'hui n'ont pas les compétences numériques nécessaires pour trouver un job sur le marché du travail. Donc voilà, voilà ce que le plan ambitionne, c'est 900 000 euros de budget par an, et c'est aussi le soutien aux espaces publics numériques qui sont en fait des petites ASBL de quartier, qui, dans les communes, dans les quartiers, mettent à disposition des ordinateurs à ceux qui n'en ont pas, et un accompagnement pour expliquer aux gens comment créer son adresse mail, comment gérer ses mails, comment exploiter tout ce que l'on peut faire en numérique, en digital aujourd'hui.
Comme vous devez certainement vous en douter, différents types de publics sont concernés par ces inégalités, comme le précise le ministre.
On a des études qui nous montrent que les seniors, que certains parmi les jeunes encore, que les femmes sont plus touchées par les hommes que la fracture numérique, que les personnes plus précarisées ont plus de difficultés, que les personnes qui ont les moyens financiers de s'acheter un ordinateur ou une liaison Internet. On le sait de manière générale, mais on voudrait le mesurer, le mobiliser un peu plus et identifier tous les acteurs sur le territoire de la région bruxelloise qui contribuent à améliorer la connaissance numérique de tout le monde. Ça peut être, comme j'ai dit, plein d'ASBL de quartier qui mettent des ordi à disposition et un peu d'accompagnement, des petits cours, des cours pour les femmes ou les femmes issues de l'immigration, enfin toute une série de publics comme ça particuliers. Deuxièmement, c'est de professionnaliser et de soutenir la professionnalisation de tous ceux qui travaillent dans cet esprit-là, une charte déontologique, des principes généraux, comment accompagner les personnes qui souhaitent disposer de ces compétences numériques. C'est mobiliser une série d'acteurs. Deuxièmement, c'est de professionnaliser et de soutenir la professionnalisation de tous ceux qui travaillent dans cet esprit-là, une charte déontologique, des principes généraux, comment accompagner les personnes qui souhaitent disposer de ces compétences numériques. C'est mobiliser une série d'acteurs. Hein, je l'ai dit, par exemple, je reprends l'exemple très clair d'Actiris. Beaucoup trop de demandeurs d'emploi aujourd'hui font encore les démarches physiques, ils vont sur place sur Actiris lire les offres d'emploi sur les valves et ne savent pas lire le mail qu'on leur envoie ou faire les recherches sur Internet et donc envoyer un CV sur Internet, éventuellement postuler sur Internet avec ces applications de connexion à distance, et donc ils ratent les occasions de trouver un emploi par rapport à ceux qui ont plus de compétences.
D'accord. Eh bien, merci à vous, monsieur Claire Failly, pour toutes ces informations. Et une fois formé au numérique, le combat n'est pas encore fini, car maintenant, il est temps de s'équiper. Et dans cette optique d'offrir un accès au matériel informatique, de nombreuses ASBL jouent un rôle important, que ce soit dans le reconditionnement de matériel ou encore à une mise à disposition gratuite de ces derniers. Et c'est notamment le cas de l'ASBL Circular Brussels qui a été créée il y a un an et qui joue un rôle important entre la récolte de vieux matériel ou encore la remise à neuf. Elle possède aujourd'hui une place centrale dans l'étape de transition vers le matériel. J'ai rencontré Denis Adriansens, le cofondateur de l'ASBL, afin qu'il nous apporte quelques explications par rapport aux différents services prestés.
Qu'est-ce qu'on fait avec Circular Brussels? Donc, on est vraiment dans le reconditionnement de matériel TIC, de matériel amorti des sociétés. On a un service de collecte gratuit et on le reconditionne. Et avec ça, on crée de l'emploi ici à Bruxelles, localement. Et avec ce matériel, on le distribue aussi auprès des écoles, des CPAS, d'autres ASBL qui sont dans le besoin.
Et quel type de matériel peut-on venir déposer justement chez Circular Brussels?
Toutes sortes de matériel est le bienvenu chez nous. Donc on se concentre vraiment de réutilisation de ce matériel. C'est vrai, beaucoup de matériel on ne peut pas réutiliser parce que c'est trop vieux, on ne peut pas mettre Windows 10 au-dessus par exemple, mais on peut dire la moitié de matériel qu'on reçoit des entreprises, on peut réutiliser. L'autre moitié qu'on ne peut pas réutiliser est recyclée par un partenaire à nous qui s'appelle Autovius. C'est une société vraiment spécifique pour le recyclage. Et voilà, oui.
Ok. Et comment se passe la remise à neuf des appareils, justement, au sein de Circular.Brussels?
Alors, quand on reçoit le matériel, déjà, on doit trier le matériel. Donc, on doit voir qu'est-ce qui est bien pour réutiliser. Et puis, il faut tester les fonctionnalités, évidemment. Donc, on a toute une équipe qui est vraiment dédiée pour ça, pour tester le matériel, des composants, par exemple l'écran, le clavier, les souris, toutes sortes de choses qui appartiennent à un ordinateur. Et puis, s'ils sont tous testés sur son fonctionnalité, s'ils sont fonctionnels, qu'est-ce qu'on fait? On met des Windows 10, par exemple, de logiciels dedans. Et quand c'est fait, c'est prêt à partir de chez nous pour aller chez un client ou un partenaire à nous.
Et du coup, comment se passe ensuite la distribution des appareils qui sont reconditionnés, remis à neuf? C'est vous qui assurez la livraison, etc.?
Oui, on a notre camion à nous qui distribue en fait en toute la Belgique, parce qu'il y a vraiment une forte demande pour de matériel TIC qui est déjà bien, parce que tout notre matériel est vraiment professionnel.
Ainsi, comme d'autres associations, elle a durant cette période actuelle livré de nombreux PC portables et matériels informatiques dans plusieurs écoles de notre capitale, ainsi qu'à la COCOF.
Et oui, il y a une grosse demande, parce que partout en Belgique, tous les élèves doivent travailler à la maison. C'est souvent qu'ils ont un ou deux ordinateurs, mais une famille avec trois ou quatre enfants qui doivent travailler tous ensemble, ils ont besoin d'un extra ordinateur. Et donc voilà, donc on livre partout en Belgique. Oui.
Le nombre de demandes étant toujours en perpétuelle augmentation, la SBL souhaite lancer un appel.
Voilà, donc on est toujours dans le besoin de matériel TIC amorti des entreprises. On a un service collecte qui est gratuit pour des entreprises. Et il y a une grosse demande actuellement. Donc voilà, c'est vraiment un appel aux entreprises pour qu'ils donnent leur matériel TIC qui est amorti. On est spécialisé dans l'effacement de données, donc c'est toujours avec des certificats qu'on donne. Donc les sociétés peuvent être sûres que leurs données sont en toute sécurité avec nous. Ils sont toujours sécurisés ou effacés d'une façon sécurisée. Et ça nous permet aussi de redistribuer aussi le matériel auprès des entreprises ou bien des ASBL ou CPAS qui sont dans le besoin. Voilà, donc c'était notre petit appel.
D'accord. Ben, merci à vous, monsieur Adrian Sens, pour toutes ces précisions. Et on arrive déjà à la fin de ce premier épisode, et à l'issue de cette investigation, on peut dire que ce monde ultra connecté, où envoyer des SMS, rédiger un mail, faire du montage ou encore faire des recherches sur le web, sont toutes sortes d'actions que l'on pourrait qualifier de banales, de simples ou de basiques, en tout cas au premier abord. Cette vie, finalement rythmée par les notifications et par une certaine connexion, pose tout de même question. En effet, nous pouvons constater que nous avons tous et toutes un rapport différent au numérique. Et surtout en cette période si particulière, puisqu'aujourd'hui, la technologie et le numérique ont tendance à rimer avec rapidité. Être déconnecté du monde virtuel, en revanche, peut avoir des répercussions sur notre vie réelle. Un comble, me direz-vous, et pourtant. Entre les technophiles ultra connectés, pour qui le monde 2.0 n'a aucun secret et leur facilite même le quotidien, et les technophobes d'un autre côté qui se portent bien mieux en étant aux abonnés absents du digital, ce qui est une évidence pour certains, ne l'est pas forcément pour tout le monde. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'un certain écart est déjà bien présent et marqué. Tout autour gravitent des personnes qui voudraient, qui ont besoin d'utiliser le numérique, mais qui ne peuvent pas, et ce, pour diverses raisons. Les enjeux sont donc de plus en plus nombreux. Mais si l'on souhaite retenir le positif de cette investigation, on peut déjà observer qu'une prise de conscience au niveau politique et privé est déjà bien présente chez de nombreux acteurs. Le déploiement de diverses initiatives en est d'ailleurs la preuve, telles que les associations de quartier qui, je le rappelle, jouent un rôle important tant au niveau éducatif qu'au niveau matériel. Mais ce n'est pas tout. En effet, d'autres acteurs sont aussi dans cet esprit de changement. C'est notamment le cas de la Chambre de commerce Bessy, qui a carrément organisé la semaine de la digitalisation durant le mois de février dernier. Et l'objectif était bien clair, il était question de former des entreprises aux pratiques du digital, puisque outre les étudiants et les travailleurs, les entreprises ont elles aussi dû s'adapter à la situation actuelle en assurant une présence sur le digital. Les différents thèmes abordés étaient assez divers. Ça allait de la création d'un site e-commerce en seulement quelques heures, à la numérisation de la relation de travail, en passant par la digitalisation pour plus de responsabilité écologique. Et oui, c'est bel et bien possible. Toutes ces démarches sont de bon augure, même si le combat est encore long pour arriver à une certaine forme d'égalité des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, nous sommes tous susceptibles d'un jour tomber dans une certaine forme de fracture numérique. Merci à tous pour cette écoute. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode autour du numérique. D'ici là, prenez soin de vous.